Bonjour et bienvenue dans notre chronique juridique hebdomadaire, nouvellement intitulée « De quel droit ?». J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis à ce sujet. Donc aujourd'hui, je vais aborder un sujet relatif au droit du travail, plus précisément à la fin de la relation de travail par la signature d'une convention de rupture conventionnelle. Quelles sont les conditions pour s'engager dans cette voie? Quelle est la procédure et quel est le contenu d'une convention de rupture conventionnelle? Enfin, y a-t-il des recours post-signature? Voilà les questions auxquelles je vais répondre en compagnie de la pétillante Jennifer.
Merci pour la pétillante. Bonjour Maître Céline Nendo, notre avocate référente ici même sur les ondes de Radio Diva FM 101.8. Un thème aujourd'hui que vous avez compris qui concerne le droit du travail. Le droit du travail et cette fameuse rupture conventionnelle. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu à un moment donné dans le droit du travail, hein, Maître. C'était pas, au départ on n'avait pas cette possibilité de rupture, hein. C'était le licenciement. Où on était, nous, on cassait notre contrat.
Effectivement, c'est une possibilité qui a été donnée par le législateur aux salariés que de pouvoir formaliser une rupture à l'amiable avec son employeur. Alors, l'idée est d'éviter des contentieux, d'éviter de prendre acte d'une rupture de la relation de travail et donc de s'exposer à un risque de requalification de la rupture en démission ou en licenciement. Donc c'est une possibilité qui est donnée finalement aux deux parties. C'est un soulagement pour l'employeur, mais c'est également un soulagement pour le salarié, si les deux s'entendent.
C'est le bien-être, on va dire, au travail presque. Hein,
effectivement.
Si l'un et l'autre ne se supporte plus, on n'est pas obligé d'être engagé.
Tout à fait. Et même ce type de rupture peut intervenir sans conflit. C'est-à-dire que le salarié peut avoir un projet professionnel différent et peut souhaiter s'engager par ailleurs. Donc même sans conflit, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs préférable que ce soit fait sans conflit, parce qu'il ne faut pas qu'une rupture conventionnelle intervienne dans un cadre de tension qui pourrait cacher du coup un licenciement déguisé. Hein. Donc ça, c'est d'ailleurs, les juridictions veillent, lorsqu'on leur soumet l'appréciation d'une rupture conventionnelle, les juridictions vérifient le contexte de la séparation et si cette rupture n'est pas intervenue dans un contexte de harcèlement, notamment. Voilà. Et si on n'est pas dans le cadre d'un licenciement déguisé.
Alors, Maître, dans la rupture conventionnelle, on comprend que c'est un accord qui se fait entre l'employeur et l'employé. Il faut que tous deux soient consentants, si on peut le dire ainsi, à cette procédure.
Tout à fait, tout à fait. C'est une des conditions nécessaires. Il y en a quelques-unes, à savoir le consentement des parties. Il faut que les parties organisent un entretien minimum. Il peut y en avoir plusieurs afin de discuter du principe et des modalités de la rupture. Et la dernière condition, c'est que cette convention de rupture conventionnelle soit autorisé ou homologué par l'inspection du travail. J'y reviendrai un petit peu plus en aval dans notre discussion. Donc oui, le principe, c'est évidemment que les parties soient libres dans leurs décisions.
Alors, mais comment ça se passe, admettons, Maître, si je ne me sens plus bien à mon travail, je souhaite engager cette rupture conventionnelle, est-ce qu'il faut que je fasse un courrier recommandé à mon employeur? Est-ce qu'il faut que je demande juste un entretien, un rendez-vous? Quelle est vraiment la procédure légale pour qu'il n'y ait pas de souci dans cette demande?
Alors, la première démarche à avoir, c'est de s'en ouvrir dans le cadre d'une discussion auprès de son supérieur hiérarchique. Alors, si c'est l'employeur en direct, on peut engager cette conversation avec lui. S'il y a un service des ressources humaines, on va voir la personne qui est son
qui
propre
est
interlocuteur.
Bien sûr, oui.
Voilà. Et on évoque cette possibilité, cette envie, en tout cas, ce souhait. Bien. À partir du moment où l'employeur émet un avis favorable, parce que l'employeur n'est pas obligé d'accepter, hein, et puis ça peut être à l'initiative du salarié, ça peut être également à l'initiative de l'employeur, hein,
c'est pas seulement à l'initiative de l'employé.
Non. C'est vraiment une voie qui est offerte aux deux parties pour permettre une rupture dans de bonnes conditions. Tout à fait. Donc à partir du moment où les deux semblent d'accord sur le principe, eh bien effectivement il y a la nécessité, hein, de formaliser ce souhait dans le cadre d'un entretien. Donc ça, c'est une obligation.
Entretien physique.
Oui, un entretien physique. Il est obligatoire, il doit y en avoir au moins un.
D'accord.
Alors, le but de l'entretien, c'est de définir les modalités de la rupture, à savoir quelle sera la date de départ effectif du salarié, d'une part, et quel sera le montant de l'indemnité.
Ça, s'il y en a, non?
Oui, mais il y en a une.
Toujours?
Obligatoirement, oui.
Ah oui?
Elle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Même, attendez, mais si on travaille juste quelques mois...
Oui.
Dans cette entreprise. Il y a une indemnité quand même ?
Oui, alors la rupture conventionnelle ne peut se faire qu'en matière de CDI. D'accord ?
D'accord.
Donc, effectivement, comme je vous le disais, l'indemnité de rupture ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Et l'indemnité légale de licenciement, elle est calculée au cas par cas en fonction de l'ancienneté
D'accord.
du salarié. Donc, elle est obligatoire à partir du moment où l'indemnité légale de licenciement est obligatoire.
D'accord, mais c'était à savoir. Je ne savais pas, maître. Je pensais qu'à partir du moment, surtout si on n'avait pas une grande ancienneté dans l'entreprise, que ça soit l'employeur ou l'employé qui l'a demandé, que cela n'était pas obligatoire. Donc c'est une bonne chose de le savoir. Donc vous le disiez, pour amorcer cette rupture conventionnelle, elle peut venir aussi bien d'une demande de l'employeur que de l'employé. Pour l'amorcer, il faut donc un entretien qui soit donc entre les deux parties, entre l'employeur et l'employé, et que cet entretien soit physique pour convenir des modalités. Donc vous disiez la date de départ et l'indemnisation. Y a-t-il autre chose, maître ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que le salarié et l'employeur, d'ailleurs, ont la possibilité d'être assistés dans le cadre de cet entretien.
Ah bon ?
Oui. Alors, on peut se faire assister lorsque l'on est salarié par soit un représentant du personnel, mm-hmm. et s'il n'y en a pas au sein de l'entreprise, eh bien, on peut se faire assister par un conseiller du salarié. Alors, qu'est-ce que c'est
un
que le conseiller du salarié ?
Ah oui ? Ouais, allez-y, alors là, je suis
J'anticipe
tout de suite.
Votre
ah, oui,
question.
Oui, complètement.
Donc oui, un conseiller du salarié, en fait, c'est une personne qui est extérieure à l'entreprise, qui est choisie pour son expérience, pour sa connaissance du droit social notamment, et des relations employeurs. Salarié. Il figure ses conseillers du salarié sur une liste qui est tenue et qui est accessible sur le site de la préfecture, en mairie également, et me semble-t-il auprès de la DREITS, donc c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, l'ancienne directe.
Bravo, vous avez une bonne mémoire.
Et oui, en plus ça change régulièrement tous ces acronymes, donc bon, une fois qu'on les a, on les tient.
Bravo, non mais une très bonne mémoire, je vous en prie. Donc des cours, c'est une personne qui est extérieure, donc on peut voir presque ce répertoire de personnes en quelque sorte, et on peut se faire représenter
oui.
par elle. Mais quel est l'intérêt ?
Alors, l'intérêt, quand on est toujours dans un rapport de force, quand on est employeur, salarié, et que l'enjeu est de terminer une relation de travail dans l'intérêt des parties, c'est-à-dire que l'employeur ne doit pas être perdant, mais le salarié ne doit pas être non plus expédié avec une indemnité qui serait moindre, il doit être... en pleine connaissance de ses droits, donc le conseiller du salarié est là pour il ne joue pas le rôle de l'avocat, d'ailleurs l'avocat ne peut pas assister à ce
ah bon.
Type d'entretien. On peut conseiller nos clients
sur ses droits
tout à fait
en amont,
en parallèle, et l'accompagner dans la négociation, mais par contre pour l'entretien physique c'est
on pourrait pas par exemple imaginer que l'employeur soit assisté lui aussi de son avocat et le salarié du sien aussi. Non, on pourrait pas le, on peut pas l'imaginer ça dans un entretien de rupture conventionnelle.
Non, tout à fait. Non, ce n'est pas l'idée. Par contre, le conseiller du salarié, lui, a cette mission déjà de porter la parole du salarié, parce qu'on est toujours dans des contextes qui peuvent être conflictuels. Il peut faire des observations pendant l'entretien. Tout ça pour amener à une meilleure négociation.
Il est presque un genre de médiateur, maître, en quelque sorte.
Alors oui, il y a cette fonction-là. Hein. Dans tous les cas, il n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est une assistance qui est toujours appréciée hein, par les salariés.
Oui, parce que de toute façon, il est là dans l'intérêt des deux, en quelque sorte, si je comprends bien.
Plutôt dans l'intérêt du salarié lorsqu'il accompagne le salarié. L'employeur peut également être accompagné, assisté par une représentant syndical de son choix. Mais voilà, chacun assure les droits, enfin, assure les intérêts, on va dire, veille aux intérêts de la partie qu'il va assister.
D'accord. Hein. Donc vraiment, donc on peut être du coup dans ce déroulement de cet entretien pour donc obtenir la rupture conventionnelle. Donc vous disiez le consentement des parties et donc on peut se faire assister soit donc on pourrait dire par le représentant de la DRH qui s'il y en a une dans cette société ou donc un conseiller du salarié que je ne savais pas du tout que ça existait.
Oui. En tout cas, pas son avocat. Un représentant du personnel, c'est-à-dire délégué syndical.
Ah d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Donc je comprends mieux aussi. Alors on précise bien tout cela, maître. Vous avez bien fait de me reprendre. Donc une fois qu'on fait cet entretien, qu'on peut être assisté par ces personnes, donc vous disiez, il faut qu'on arrive à l'entente, donc pour le dédommagement, pour la date de départ, quoi d'autre encore, maître ? Y a-t-il autre chose qui vous vient à l'esprit ?
Alors, le contenu de la convention de rupture, c'est véritablement déterminer ensemble quelle sera la date de départ effectif du salarié. Alors, là-dessus, il faut savoir que la date de départ ne peut pas être antérieure au lendemain du jour de l'autorisation de la rupture par la DRETS.
Ah, alors attendez.
Donc là, j'anticipe un petit peu sur la procédure. Quelle est la procédure pour finaliser une convention de rupture conventionnelle ?
Une rupture de conventionnelle, oui.
Alors, il y a ce premier entretien. Bon, si on doit en faire d'autres,
un deuxième, c'est pas le problème. Mais il en faut au moins, on a dit.
Ensuite, il y a un entretien de signature. À partir du moment où l'on signe la convention de rupture, eh bien, court un délai de 15 jours. C'est un délai de rétractation. Pendant ce délai de 15 jours, chaque partie peut faire marche arrière.
D'accord,
et dire,
on peut.
Oui. Voilà.
On peut se dire, non, finalement, j'ai changé d'avis.
Tout à fait.
Si l'un des deux...
Oui.
Il n'y a pas besoin des deux.
Non,
du consentement des deux d'annuler cette rupture conventionnelle.
Oui, puisque de toute façon...
Le droit de rétractation, 15 jours.
Exactement, parce que le consentement des deux est requis pour aller au bout. Donc à partir du moment où il y en a un qui n'est plus d'accord, eh bien il peut se rétracter dans ce délai de 15 jours.
Bon, okay, c'est légal.
C'est un délai calendaire, c'est-à-dire 15 jours.
D'accord.
Voilà. À partir de l'échéance de ce premier délai de 15 jours, deux schémas apparaissent, à savoir que soit on est dans le cas d'un salarié classique, soit on est dans le cas d'un salarié protégé. Si on est dans le cas d'un salarié classique, ok, eh bien, chacune des parties, le plus diligent, que ce soit l'employeur ou le salarié, a la possibilité d'adresser la convention de rupture à la DRETS. Ça peut se faire par ça s'appelle la télé-RC, c'est une communication en ligne.
D'accord. Okay.
Et on sollicite donc auprès de la DRETS l'homologation de la convention.
Ah bon ?
D'accord.
Ah, c'est vraiment quand même tout cadré, hein, vraiment.
Et oui,
hein.
On fait pas ça.
Moi, je pensais vraiment que c'était signé, ça s'arrête là, on avait arrêté.
Non.
Après, on envoyait ça à Pôle emploi, quoi, vous voyez.
Eh bien, non. Effectivement, il y a cette autorité qui veille justement à ce que les droits des uns et des autres ne soient pas, lésés, tout à fait. Que la procédure a été respectée, qu'on n'est pas dans le cadre d'une rupture un petit peu extorquée.
Abusive,
hein.
Ouais, ouais, bon. D'accord.
Et donc là, on parle d'une obologie. Et alors, la DRETS, soit elle homologue, soit elle ne répond pas, soit elle refuse. Si elle homologue, eh bien, tant mieux.
C'est bon, c'est validé.
Voilà, on se serre la main. Si elle ne répond pas, on estime que l'absence de réponse au bout de 15 jours vaut acceptation. Donc,
d'accord.
On se serre toujours la main. Si elle refuse, eh bien, dans ce cas-là, alors, soit on en prend acte et on envisage notre mode de rupture, soit on a la possibilité de contester ce refus qui doit être motivé. Hein. On ne peut pas juste mettre un tampon, refuser. Non, 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 il faut le motiver, ce refus. Et il peut être contesté devant le conseil de prud'homme.
Ah voilà. Oui, quand même, hein, c'est une sacrée procédure. Hein.
Tout à fait.
Mais qu'est-ce qui mènerait l'adresse à le refuser? C'est qu'il verrait quel défaut sur cette rupture conventionnelle.
Alors, soit les délais n'ont pas été respectés, soit il n'y a pas eu d'entretien, ou...
Des choses simples de ce genre. Hein,
voilà, des choses très
simples. La procédure n'a pas été respectée.
Tout à fait, tout à fait. La forme est toujours très importante en matière judiciaire, c'est le support du fond.
D'accord.
Donc, si on fait mal les choses, on peut aussi considérer que les motivations ne sont pas non plus légitimes.
D'accord.
Mais bon, après, il y a un contrôle un petit peu plus pointu qui se fait lorsque l'on est dans le cas d'un salarié protégé.
Oui, c'est ce que vous disiez.
Voilà.
Alors, je voulais savoir ce que c'est ce cas de salarié protégé.
Eh bien, un salarié protégé, c'est par exemple le salarié qui a un mandat syndical.
Ça peut être
un salarié qui est, par exemple, conseiller au conseil de prud'homme, côté salarié, voilà.
D'accord.
Donc, ce sont des statuts spécifiques qui font qu'on leur donne un statut protégé. Parce que ce sont des personnes qui sont à risque et qui sont dans les entreprises, ceux qui vont porter la parole de leurs collègues. Ce sont
D'accord.
les salariés qui s'exposent au mécontentement de l'employeur ou aux discussions vives. Voilà, ce sont ceux qui s'exposent, donc ceux qui doivent être plus protégés.
D'accord.
Donc le salarié protégé, lorsqu'il signe une rupture conventionnelle, l'employeur la transmet, cette convention,
ouais.
Voilà, à l'adresse qui, à l'inspection du travail qui va investiguer un petit peu plus, qui va pouvoir convoquer les parties pour vérifier qu'il n'y a pas eu de pression, pour vérifier que ce n'est pas par rapport à sa qualité de salarié protégé, qu'on veut évincer cette personne et que du coup, on lui...
Alors, je trouve que c'est un peu quand même pas très normal. Parce que bon, il est représenté, c'est vrai, on comprend, il y a un syndicat derrière. Mais ça veut dire qu'on est moins protégé que nous, qu'on est le salarié, comme vous disiez, classique.
Non, ça ne veut pas dire qu'on est moins protégé, parce que
non.
Dans tous les cas, on peut être assisté également
oui, ce
par,
que vous disiez.
Voilà, par un représentant du personnel. Et c'est tout simplement le statut du salarié. Alors, peut-être que protégé, ça vous donne l'impression qu'il y a
plus avantage,
de poids de mesure.
Oui.
Mais non, c'est vraiment parce que ce salarié, il a derrière lui un passif vis-à-vis de l'employeur qui n'est pas le même que le salarié classique. Qui
parce que son action d'entreprise est, on va dire, socialement plus impliquée, quoi. Je veux
tout
dire,
à fait.
D'accord,
et c'est certainement celui qui aura eu le plus de mots avec l'employeur, puisqu'il aura fait valoir les droits de
les
ses collègues. Voilà.
Oui, on comprend. D'accord. Donc on voit dans ce sens protégé, on sort du contexte vraiment de dire qu'il a plus de droits que les salariés classiques, mais c'est juste que en étant le représentant de ses collègues, forcément, vous disiez, il peut forcément avoir plus d'altercations avec son employeur. Bon, d'accord. Donc on a compris la procédure. Donc, on a ce délai de 15 jours de rétractation, comme vous le disiez, qui peut venir d'une partie comme de l'autre. Ensuite, vous disiez, il y a deux statuts, celui du salarié classique et du salarié protégé qu'on vient d'évoquer. Ensuite, il faut envoyer cette convention à l'adresse pour quand même qu'elle donne son accord ou pas. Donc, son accord, OK, pas de réponse, on attend 15 jours, c'est comme s'il y a un accord. Ou sinon, son refus, ça veut dire qu'il y a une étape qui n'a pas été respectée dans la convention de cette rupture. On est d'accord.
Voilà.
Bon, ça, c'est donc on va dire les étapes qu'il faut respecter dans la procédure et comment ça se passe. Une fois que l'adresse, admettons, a dit OK, on peut y aller dans cette rupture, Que se passe-t-il, maître, encore ?
Eh bien, on est dans le cadre d'une fin de contrat. Donc, les documents sociaux sont remis au salarié. Celui-ci, alors s'il a un nouveau projet, eh bien, il peut commencer à travailler à partir du moment où il sort des effectifs. S'il est en reconversion professionnelle, il peut envisager des formations. S'il veut pouvoir percevoir les indemnités Pôle emploi en attendant de retrouver une activité, eh bien, c'est aussi l'un des avantages de cette rupture conventionnelle, c'est que à partir du moment où il est éligible aux indemnités Pôle emploi, cette modalité de rupture lui permet de percevoir les allocations chômage, ce qui n'est pas le cas en cas de démission, sauf cas exceptionnel.
Démission ou licenciement ?
Alors, non, le licenciement permet tout à fait de percevoir les indemnités Pôle emploi. À partir du moment où la rupture du contrat n'est pas du fait de la volonté du salarié, c'est-à-dire qu'il perd son emploi pour un autre fait que sa propre volonté, il a droit aux allocations chômage, même si on est licencié pour faute grave.
Sur un contrat CDI, si on est licencié, on a le droit.
Tout à fait, parce qu'on perd son emploi, mais on ne l'a pas désiré.
Ça, c'est une parenthèse qu'on est en train de faire. Hein, c'était pas prévu, mais si. Alors, il y a si on pourra en reparler, mais. Licenciement dans tous les styles, c'est-à-dire qu'admettons si c'est un licenciement pour faute grave ou quoi, on peut quand même bénéficier de ses droits.
Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire il faut faire la différence entre les indemnités de licenciement et les indemnités et les allocations chômage. Ce sont deux choses indépendantes.
D'accord.
Si un employeur licencie pour faute grave son salarié, effectivement...
Les indemnités de licenciement, c'est celle-là qu'elle serait perdue, on va dire.
Voilà. Même si ça méritera une émission spécifique.
Oui. Mais c'était notre parenthèse là-dessus.
Voilà.
D'accord.
Effectivement.
Bon.
C'est celles-ci qui sont sujettes à discussion. Par contre, à partir du moment où le salarié quitte les effectifs, mais que ce n'est pas de son fait, alors c'est de sa faute peut-être initialement.
Oui, mais c'est pas son
action.
Ce n'est
pas lui qui a souhaité quitter son poste. Eh bien, il a droit aux indemnités.
D'accord. Donc vraiment, c'est que la démission qui ne permettrait pas de toucher ses allocations de chômage. Bon, d'accord. Donc une fois que on est dans cette fin de contrat, qu'on se voit remettre les documents qui nous permet de finir cette transition, cette procédure, on redevient libre de ses actes et de retrouver du travail ou de se lancer dans une autre
aventure professionnelle.
Voilà, on est bien d'accord. Bon, d'accord, maître, ça paraît comme ça simple, mais finalement, je pensais que c'était beaucoup plus simple que tout ce que vous disiez, qu'il y avait moins d'étapes, qu'il y avait moins de contrôle. Voilà, alors, dans le cas, pour terminer sur ce sujet, dans le cas où il y aurait un problème. Donc, c'est-à-dire, commençons par exemple de dire, je voudrais faire une rupture conventionnelle, ça vient, admettons, d'un ou de l'autre, mais qu'on se voit refuser. Admettons, l'employeur veut que son salarié aborde cette procédure et vice-versa, mais l'un des deux le refuse. Est-ce qu'il y a une possibilité ?
Alors, plusieurs configurations. Si l'un des deux refuse de signer, il n'y a pas de rupture conventionnelle, déjà.
D'accord.
L'une des deux parties. Si, par contre, les deux s'accordent et envoient la rupture conventionnelle et que celle-ci est refusée par l'inspection...
L'adresse, ouais.
Voilà, tout à fait. Eh bien, il y a, comme je vous le disais, la possibilité d'en prendre acte et puis on continue et puis on verra bien comment on sortira de la relation de travail.
Vous disiez même d'aller jusqu'au prud'homme, etc.
Voilà. Ou alors, on a la possibilité de contester cette décision de refus devant le conseil de prud'homme en disant, mais non, en contestant la motivation, et c'est pour ça que le refus doit être motivé. Donc, il faut savoir qu'on peut saisir le conseil de prud'homme pendant un délai de une année. Ok. Pour soit contester le refus.
D'accord. Le refus qui vient de qui là ? De l'adresse ?
Qui vient de l'adresse.
D'accord.
Le refus des parties, on n'en parle même pas. Ça, c'est la liberté,
c'est
le libre arbitre de chacun et on n'est pas contraint de signer.
D'accord.
Donc, soit on conteste le refus de l'adresse, soit on conteste le contenu de la convention. C'est-à-dire que un salarié qui va signer une convention, qui ne se fait pas assister, quelques mois après la signature, consulte un avocat, qui va lui dire que l'indemnité, par exemple...
N'était pas celle à laquelle il aurait eu droit.
Exactement. Ou alors...
ses droits ont été lésés.
Voilà. Exactement.
D'accord.
Et bien là, le salarié a la possibilité, pendant un délai d'une année, de saisir le conseil de prud'homme pour faire annuler la convention, la rupture conventionnelle, et pour demander, que le conseil de prud'homme prenne acte que cette rupture, en fait, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et donc de faire condamner l'employeur au paiement des indemnités qui en découleront. Ça, c'est une possibilité. On peut contester le refus. On peut contester la convention.
D'accord.
Et puis, c'est à peu près tout.
Bon, d'accord. Donc, vous disiez, libre arbitre à chacun. Mais vraiment, si je me sens pas bien, maître, je suis, moi, salarié, dans cette entreprise, je me sens pas bien, pour, justement, pas démissionner, parce que je sais que je perds mes droits, à moins que j'ai un travail direct de suite, qui me redonne de suite un salaire. Mais si je n'ai pas cette possibilité, je ne peux rien faire d'autre. C'est compliqué.
Eh bien, à part démissionner, effectivement, vous ne pouvez pas contraindre l'employeur à signer une rupture conventionnelle. Donc, après...
Alors, maître, j'ai déjà... Excusez-moi, je vous interromps. Oui. Mais c'est parce que d'un coup me vient l'idée que j'ai déjà entendu parfois des formes de menaces. Et comment on fait dans ce cas-là? Parce que j'ai déjà vu des situations où, que ce soit de l'employeur ou de l'employé, du salarié, qui, par exemple, dit « Ah, vous voulez pas m'accorder ma rupture conventionnelle? Eh bien, je vais, vous dénoncer à l'inspection du travail, ou ci ou là. » Il menace. Comment ça se passe, ça? Parce que ça peut être compliqué dans ce cas-là. Je vous prends au dépourvu de cette question, mais pourquoi elle m'est venue?
Non, c'est un moyen plus ou moins douteux de négocier une rupture conventionnelle.
On pourrait prouver que c'est quand même un abus ou pas.
Alors, c'est tout l'enjeu, justement, des vérifications qui sont effectuées par la DRETS d'un côté et par le conseil de prud'homme, le cas échéant, de l'autre côté. On part vraiment du principe que cette rupture doit être consensuelle. À partir du moment où l'un ne veut pas signer et qu'on va vouloir lui extorquer, les conditions ne sont pas réunies pour avoir un accord qui sera indemne de tout reproche. Donc, c'est quoi le risque pour la partie qui fait le forcing? C'est que, au final, l'autre partie saisisse à terme le conseil de prud'homme et demande l'annulation de cette convention qui aura été extorquée. Bon. Après, on comprend que dans certaines situations conflictuelles, bien sûr que le salarié peut aussi faire valoir à son employeur tout l'intérêt de partir en rupture conventionnelle plutôt que de s'engager dans une procédure de licenciement qui risque d'être sujette également à recours, avec les délais de procédure et l'aléa judiciaire. Le principe, c'est véritablement d'amener les parties à se quitter
dans la bonne entente, dans les bonnes conditions.
Voilà.
Bien sûr.
Mais encore une fois, la rupture conventionnelle ne doit pas substituer un licenciement.
D'accord, on comprend bien et on en fera d'ailleurs la différence, parce que je pense que dans le droit du travail, il y a tant et tant de choses à dire, et notamment sur les indemnités de licenciement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de cas où ça peut être dans la rupture conventionnelle, ça peut être dans le licenciement, ça peut être dans, par exemple, je crois, sur une invalidité. Il y a vraiment plein de choses, et ça se calcule, comme vous disiez, en fonction de plein de conditions, l'ancienneté, après, je crois, même par rapport au secteur aussi dans lequel le salarié se trouve.
Oui, bien sûr, puis il y a des conventions collectives qui, lorsque sont plus favorables aux salariés, s'appliquent. Et donc, il y a le texte, il y a le code du travail, mais chaque secteur d'activité a des règles qui lui sont propres et qui sont applicables.
En tout cas, nous avons fait, il me semble, le tour de cette rupture conventionnelle. Maître, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez quelque chose encore à rajouter?
Non, j'ai fait le tour. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir à la base, c'est que ce sera toujours une discussion. Il faudra une discussion à la base de tout engagement dans cette voie-là. On part sur le principe d'un dialogue et l'enjeu, c'est véritablement de se serrer la main et de permettre à chacun de poursuivre sa propre voie.
Bien sûr, parce que le conflit n'est jamais bon à mener. Et donc, si on applique déjà toutes les procédures que vous disiez, voilà, que ça soit pour cette rupture conventionnelle, il faut le consentement, on le disait, on récapitule tout ça, des deux parties. Le salarié peut se faire représenter par donc une personne d'un syndicat, ce que vous disiez, hein, maître, ou un conseiller du salarié que vous pouviez trouver, que vous pouvez trouver, vous disiez, à quels endroits, moi j'ai pas retenu, hein, les endroits.
Alors, sur le site internet de la préfecture, en mairie, il y a des listes, et également sur le site de la ADRETS.
Bon, voilà, donc vous savez que vous pouvez être représenté par un conseiller, que dans cette rupture conventionnelle, il peut il y avoir ce délai de rétractation légale de 15 jours, qui peut être aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Différents statuts, le salarié classique et le salarié protégé, qui est généralement un représentant d'un syndicat, voilà. Il faut l'accord de l'ADRETS. Ça se fait pas comme ça. Voilà, moi je pensais. Il peut dire OK, il peut ne pas donner de réponse et au bout d'un délai de 15 jours, ça veut dire que c'est OK. Ou refuser avec un motif. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un refus motivé. Et puis sinon, dans ce cas-là, vous arrivez à une fin de contrat et avec voilà, tous les documents qu'il faut pour vous inscrire à Pôle emploi, hein, notre fameux ACEDIC de l'époque. On était moins jeunes à cette époque. Voilà, moins vieux plutôt. Et voilà, sinon, après, il y a des recours au prud'homme au cas où ces procédures ne seraient pas respectées. Et vous disiez qu'il était intéressant, même si vous avez accepté la rupture conventionnelle, mais que vous avez été peut-être lésé dans l'un des droits, vous avez un an pour revenir sur cette rupture conventionnelle si vous faites, admettons, conseiller par vous, par exemple, maître, ou par un syndicat, qui sait, voilà. Mais on peut revenir sur tout ça. Est-ce que j'ai bien résumé, maître ?
Vous avez tout compris.
Bon, allez, dans pas longtemps, je plaide au barreau. Allez, maître, nous vous remercions pour encore une fois ce thème. Nous savons que vous êtes une experte, avocate, certes, mais aussi que vous avez la particularité, eh bien, d'être bilingue. Vous savez aussi bien parler le français que l'italien et représenter les personnes sur le territoire français qu'en Italie. C'est bien ça.
Effectivement, tout à fait. Vous pouvez contacter le cabinet au 04 86 01 28 70. Et comme vous l'a suggéré Jennifer, n'hésitez pas à choisir votre interlocuteur en langue française ou italienne. Vous serez dans tous les cas toujours très bien reçu.
Exactement, ça peut être pour des droits d'héritage, de succession, ça pourrait être pour des documents aussi, ça peut être pour la nationalité, ça peut être pour plein de choses. Vraiment, il y a...
Ah oui, on ne s'ennuie pas, effectivement.
Je présume, voilà. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir suivis avec notre avocate, avec ce nouveau titre.
De quel droit ?
De quel droit ? De quel droit avec notre avocate référente sur Diva FM, maître Céline Lendo, que vous retrouverez donc vendredi prochain. Très bonne soirée à vous tous et à vendredi prochain, maître.
À vendredi prochain.